Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Chaque année, au début du carême, nous avons cet évangile de la transfiguration. Et ça pourrait sembler un petit peu étonnant, autant avoir un évangile sur Jésus au désert, la résister aux tentations, ça colle avec le carême, autant la transfiguration, le lien n'est pas forcément évident. Si on regarde la place de cet évangile, elle est très particulière. Elle arrive juste après la confession de Pierre. Pierre reconnaît que Jésus est le Messie. À ce moment-là, Jésus dit qu'il va falloir qu'il souffre de la part des anciens, qu'il soit mis à mort. Et c'est à ce moment-là que Jésus essaye de l'en empêcher. Et cette parole du Christ à Pierre, arrière Satan. Arrière Satan. Le confort, un salut qui ne passe pas par la croix, et finalement une tentation du diable. Et puis juste après, lorsque les disciples redescendent de la montagne avec Jésus, ils prennent la route de Jérusalem, et donc c'est le début de la passion. Ça nous dit quelque chose d'important, c'est que justement cet évangile glorieux, ce moment glorieux de la vie du Christ, est directement lié aux souffrances de la passion. S'il y a l'épisode de la transfiguration, c'est précisément parce qu'il va y avoir la passion. Et si Pierre est là, c'est parce qu'il vient d'être repoussé par le Christ. Le Christ vient lui apprendre quelque chose. Qu'est-ce qui se passe sur cette montagne? La première chose qui se passe, c'est que Pierre, Jacques et Jean sont choisis. Ce ne sont pas les 12 qui montent. C'est trois hommes particuliers, c'est l'initiative du Christ. Et ces hommes voient la gloire du Christ. Chacun ici, cette grâce nous a été faite d'une manière ou d'une autre. Le Christ donne des moments de grâce, des moments où d'une certaine manière nous mettons la main sur Dieu, où nous avons perçu la réalité de Dieu, sa présence. Et ces moments-là nous sont donnés pour un temps bref. Personne ne vit sur la montagne. Et il nous faut les garder précieusement, il nous faut les cultiver. Parce qu'il va falloir redescendre. C'est pour ça que Pierre dit, est-ce qu'on peut rester, est-ce qu'on peut mettre des tentes? Les tentes dans la culture juive, ça veut dire on s'installe, ça veut dire on fixe la gloire. Souvent ça arrive dans la prière, on se dit, si ça pouvait durer, quoi. Ça y est, là, enfin Dieu se fait sentir. Et en fait, non. Il faut redescendre, il n'y a pas le choix. il va falloir aller vers la croix, il va falloir aller vers la passion, et on sait ce que ça va donner pour Pierre, mais il faut garder au cœur cette expérience qui a été donnée. Quand vous rentrez dans la basilique Saint-Pierre de Rome, toute la basilique est grise. 90% de Saint-Pierre est gris. Il y a quelques taches lumineuses. Il y a les saints fondateurs dans toute la nef, et les chapelles dorées. C'est ces petits moments où Dieu s'est révélé à nous. C'est la présence des saints au milieu de nous. Et à Saint-Pierre, il n'y a qu'un seul endroit qui est véritablement lumineux, c'est le dôme. Hein. C'est-à-dire, c'est la vie éternelle. La vie est grise, la vie est sombre, même si nous ne sommes pas seuls. Dieu est à nos côtés. Mais ce qui vient illuminer, ce qui vient donner la perspective, c'est la vie éternelle. C'est ce dôme qui surplombe. Là, l'épisode de la transfiguration, il y a vraiment quelque chose d'eschatologique. Si vous prenez, vous savez, tous les récits d'expériences de mort imminente, ces gens qui ont connu la mort pendant un bref instant et qui ont été réanimés, écrivent tous la même chose. Hein. La lumière, une paix, une joie, la volonté de rester là, et on retrouve ceux qui nous ont précédés. Ça correspond exactement au récit de la transfiguration. La lumière qui émane du Christ, cette lumière véritable, la présence de ceux qui nous ont précédés, Moïse, Élie, et puis cette paix qui se dégage de l'Évangile. Mais il faut redescendre, il faut cultiver. Donc cultivons cette perspective du ciel, cette vie intérieure, parce que, de fait, la vie chrétienne, ben, c'est souvent gris, hein. Parfois même c'est noir. On a eu cet épisode avec Abraham, première lecture. La vie d'Abraham, elle tient à quelques moments où Dieu est intervenu. Quitte ton pays, après, il faut attendre longtemps avant que Dieu intervienne de nouveau. Abraham a vécu sur cette promesse, ce moment où Dieu est intervenu pendant longtemps. C'est le propre de la foi. Saint Thomas dit, la foi, c'est quelque chose qui est certain, mais qui n'est pas évident. Sinon, ça ne serait pas la foi. La foi n'est pas évidente. Combien de personnes ont croisé Jésus et ne l'ont pas reconnu ? Ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident de reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas évident. Le Seigneur nous donne des signes. Le Seigneur nous donne suffisamment de signes pour que nous puissions être fidèles, pour que nous puissions cheminer dans la foi. Mais ce n'est pas évident. Et donc il y a une forme de combat. Et ce combat, c'est un combat spirituel. C'est le combat de la vie intérieure. C'est ce qu'on a demandé dans la collecte. Seigneur, donne-nous d'écouter ta parole pour que nous ayons le regard suffisamment pur pour discerner ta gloire. Pour voir la présence du Christ au milieu de nous, il faut cette vie de prière. Il faut être cramponné à la parole de Dieu. Il faut être cramponné au Christ pour voir, paradoxalement, le Christ. C'est en prenant les moyens que le Christ nous donne que nous pouvons voir la présence du Christ. En 3 minutes, un petit mot sur les consignes qui ont été données par l'évêque. Ne pas se serrer la main, pas de signe de paix et compagnie. Et puis, celle qui est difficile à digérer pour beaucoup d'entre nous, de la communion dans la main. Alors, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur la communion spirituelle. Je suis allé voir dans la Tertia, la question 84, sur la manducation corporelle et la manducation spirituelle. C'était les termes qu'employait saint Thomas d'Aquin. Faut être très clair, hein, cette distinction, elle remonte à saint Augustin. Saint Augustin dit... Quand on communie, il faut communier corporellement et spirituellement. C'est-à-dire, si je reçois l'Eucharistie de corps physiquement, mais que mon âme n'est pas là, c'est une communion pour la mort, c'est une communion pour la damnation. Le principe, c'est que quand je communie corporellement et spirituellement. Hein, ce n'est pas deux voies différentes qui nous sont proposées. Vous avez le choix entre une communion purement corporelle et une communion purement spirituelle. Non. La voie ordinaire, c'est que je communie corporellement à travers le signe du sacrement, et cette communion à travers le signe du sacrement me donne la communion spirituelle. Je reçois réellement la présence du Christ. Enfin, plutôt, le Christ me reçoit réellement et me transforme. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Saint Augustin dit que de même que pour le baptême, il peut y avoir un baptême de désir, un baptême du martyr, un baptême du sang, c'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, serait en train de préparer son baptême et qui a un accident, eh bien, on considère qu'il a quand même été baptisé parce qu'il était en train de préparer le baptême. Parce que Dieu qui a institué les sacrements n'est pas lié par les sacrements. Et il dit que de la même manière, quelqu'un qui serait empêché de communier peut faire une communion spirituelle. Mais c'est quand il y a un empêchement. Là, on n'est pas dans le cas d'un empêchement. La communion spirituelle, c'est quand il y a, imaginons, un chrétien persécuté qui ne peut pas aller à la messe, il est en prison. Bien sûr qu'il peut communier spirituellement, parce qu'il y a quelque chose concret qui l'empêche de communier corporellement. Donc il s'associe à ce qui est en train d'être célébré. C'est ça la communion spirituelle. Je vous rappelle aussi les différents modes de présence du Christ. Cette communion spirituelle, elle se réalise de façon excellente et parfaite dans la communion corporelle. Parce que la communion corporelle, c'est la présence réelle du Christ. Hein, c'est le grand moyen pour être en lien avec le Christ. Mais cette communion avec le Christ, cette communion spirituelle, c'est quelque chose que nous devons vivre au quotidien et qui se réalise de multiples façons. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc elle se réalise déjà dans cette vie ecclésiale, cette vie de prière commune. Cette présence du Christ, elle se réalise aussi dans la lecture de la parole, la lecture priante de la parole de Dieu. Elle se réalise aussi dans le service des pauvres, des malades, de tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, dit Jésus en Matthieu 25, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc c'est une véritable présence du Christ, c'est à moi que vous l'avez fait. Cette présence du Christ, enfin, elle se réalise à travers la présence des ministres de l'Église, à certains moments, par exemple, quand un prêtre baptise un enfant, eh bien ce n'est pas réellement le prêtre qui baptise, c'est en fait le Christ. À ce moment-là, c'est le Christ qui pose l'action sacramentelle. Que faut-il retenir de tout cela ? La première chose, c'est qu'il faut chercher la communion avec le Christ. Il faut chercher à être en communion avec le Christ, pas simplement au moment où je communie corporellement, mais dans la vie quotidienne, tout le temps. La deuxième chose, c'est qu'il y en a marre de cet esprit protestant où on est sur la défensive et on se permet de juger l'Église en permanence. On est des foutus individualistes complètement pourris par la culture actuelle, des individualistes qui se permettent de juger tout à l'aune de leur propre jugement. À un moment, on obéit, et l'obéissance, ça fait mal, c'est tout, c'est comme ça, mais on obéit. Il y a une crise de l'obéissance, c'est complètement dingue, quoi. Toutes les autorités sont remises en cause en permanence. Non, on obéit. Le Christ nous a sauvés par son obéissance, nous dit saint Paul. Et bien sûr que l'obéissance, ça arrache, mais voilà, on obéit. Qu'est-ce que ça veut dire de remettre en cause des décisions du pape, des évêques? Je ne parle pas que de la communion, là, c'est de façon plus générale. Alors qu'à chaque Eucharistie, l'Église nous fait prier pour le pape et les évêques, et notre évêque. À un moment, il faut être bien disposé. Nous recevons Sainte Jeanne d'Arc. Il m'est d'avis que pour moi, le Christ et l'Église, c'est tout un. Il m'est d'avis que pour moi, le Christ et l'Église, c'est tout un. Nous recevons le Christ par l'Église. Et mon amour concret de l'Église dit quelque chose de mon amour concret du Christ. Ça, c'est la deuxième chose. L'obéissance, là, une forme de docilité. Et puis, là, il y a une troisième chose. Et je l'ai oublié. Voilà. Si, oui. On est sur. C'est pas le salut qui est en jeu. Hein. Si vous communiez sur la langue, vous communiez sur la langue. Mais c'est une disposition plus large de cœur, d'obéissance. C'est aussi une disposition vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, nos assemblées, elles sont quand même constituées en bonne partie de personnes âgées. C'est aussi voilà, une charité concrète de se dire on prend soin aussi de nos anciens parce que c'est eux qui sont les plus exposés. C'est une mesure de prudence. C'est pas des décisions qui sont prises pour ôter la foi, c'est simplement prendre soin de ceux avec qui nous sommes dans ces assemblées. En tout cas, prions aussi, hein, prions pour le pape François. Le 11 mars, mercredi, il y aura une grande journée de rogation, de prière dans l'église, et de s'associer à cette démarche et de porter cette intention durant les jours qui viennent.